Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau mégaphone qui fait suite à la sortie du premier numéro du Gigi, le journal de Jet, la semaine précédente. Aujourd'hui, nous souhaitons approfondir deux sujets qui avaient été évoqués en focus. Ce sera donc une émission en deux parties. Une première sur l'accès aux soins en quartier prioritaire résonnant avec l'ouverture d'un centre de santé au Breil. Et d'ici 15 minutes, une deuxième partie avec l'association COSETA, le collectif des citoyens exposés au trafic aérien, qui réagit au report de l'appel d'offres de l'aéroport Nantes-Atlantique. Pour cela, nous entendrons la voix de Paolo Ferreira, président de l'association COSETA. Mais tout de suite, parlons de l'accès aux soins dans les quartiers prioritaires. Les quartiers prioritaires, au même titre que les territoires ruraux, sont affectés par les déserts médicaux. Dans l'agglomération nantaise, ce sont 49 médecins pour 100 000 habitants qui exercent dans les quartiers prioritaires contre 93 en moyenne dans l'agglomération, selon l'Observatoire régional de la santé en 2021. Afin de désenclaver cet accès aux soins, la ville de Nantes met en place plusieurs projets de santé. La maison de santé de Bellevue qui a ouvert ses portes en 2022. Une autre sera inaugurée à Nantes-Nord en 2024. Et en octobre dernier, c'est le centre de santé participatif du Breil qui a vu le jour. À l'occasion de l'ouverture de la maison de santé de Bellevue, la rédaction de Jet était partie à la rencontre des habitants, mais aussi du personnel soignant. Je vous propose d'écouter un premier reportage à ce sujet, une réalisation de Clara Jaeger en 2022.
Le manque d'accès aux soins de proximité est un enjeu qui touche de nombreux territoires ruraux et urbains à l'échelle nationale. Face à l'expansion de ces déserts médicaux, les maisons de santé apparaissent comme une solution pour améliorer le suivi des patients. Celle qui a ouvert en janvier 2022 dans le Grand Bellevue, à cheval sur Nantes et Saint-Herblain, est venu sortir ce quartier prioritaire de son enclavement sanitaire.
J'ai connu la situation.
Michel Boucher, président de l'Association des citoyens et usagers de la maison de santé, qui a participé à la co-construction du projet.
Le médecin prenait sa retraite, mais j'ai eu la chance d'avoir sa remplaçante. Par contre, ceux qui arrivent avaient de grosses difficultés pour avoir médecin.
Initié il y a une dizaine d'années, le projet de la maison de santé réunit aujourd'hui 18 spécialistes du soin. Une concentration dont se réjouit Leïla Younes, habitante du quartier.
Je ne vais pas tout le temps là-bas, parce que j'ai mon médecin généraliste, elle est toujours à sa place. Mais je vais maintenant y aller pour la gynéco, après je vois, etc. Il y a tout, il y a tous les médecins là-bas. Oui, c'est bien, c'est bien.
Mais à peine 6 mois après son ouverture, la maison de santé est déjà victime de son succès.
Il y a bien 6 médecins, mais il y en a plusieurs déjà qui travaillaient dans le secteur. Alors finalement, ils sont venus avec leur patientèle. Et en réalité, disons que ça fait 1,5 à 2 postes nouveaux. Et déjà, c'est saturé. Ils commencent à refuser des gens.
Pour un premier rendez-vous médical, ça prend 2 mois.
Hélène Boulch, coordinatrice des activités de l'établissement et employée de la ville de Nantes.
Les orthophonistes, par exemple, puisque c'est un suivi long, elles, c'est pas avant début 2023. Une fois qu'il y a un premier rendez-vous, c'est beaucoup plus simple d'accès parce qu'il y a déjà un début de dossier médical.
Le constat est le même pour tous les praticiens de la maison de santé qui couvrent des besoins spécifiques.
Enfin, il y avait surtout des thématiques qui pêchaient. Au niveau de ce quartier, c'était tout ce qui est santé sexuelle, santé mentale, nutrition et prévention des risques.
Au-delà de favoriser un meilleur accès aux soins, la maison de santé a aussi pour particularité d'organiser des activités pour sensibiliser la population aux enjeux sanitaires.
Alors, il y a eu déjà plusieurs ateliers qui se sont lancés. Il y a eu une activité pour encourager les personnes du quartier à marcher un peu plus au quotidien. Il y a eu un atelier nutrition, mais c'est encore réduit. On envisage sans doute de faire une action pour le cancer du sein en octobre, le mois sans tabac en novembre. Et sans doute en fin d'année, une activité contre tout ce qui est alcool, consommation d'alcool en fin d'année. Et sans doute d'autres activités l'an prochain. C'est l'occasion justement de les toucher de manière plus concrète, de leur proposer déjà des activités pour qu'elles puissent s'approprier le bâtiment, qu'elles soient plus à l'aise aussi pour interagir au sein de la maison de santé. C'est très compliqué encore de toucher les personnes pour d'autres activités qu'une consultation médicale classique.
Thomas Di Maria, médecin généraliste et coordinateur de l'établissement, insiste lui aussi sur l'importance d'informer la population locale.
Voilà, il y a des gros besoins d'éducation à la santé. Alors il ne s'agit pas de plaquer des obligations en fait, auprès des personnes, mais d'informer. Pour l'instant, on a beaucoup rencontré toutes les associations autour de la parentalité. Voilà, en se disant que voilà, proposer des activités, des ateliers pour les enfants ou pour les parents, ça pouvait être un axe de travail de base qui permet de travailler plein de choses, en fait, hein, qui permet de travailler le bien vivre ensemble, le bien manger, le bien bouger. Il s'agira aussi que les parents soient eux-mêmes acteurs de l'éducation à la santé de leurs enfants.
Ces différents enjeux poussent aussi parfois les professionnels à dépasser le simple domaine de la santé.
En tant que médecin généraliste, on est vraiment sensible aux questions sociales et notamment essayer d'aider les personnes à avancer sur la question du droit au logement, enfin de l'accès à un logement digne, de pouvoir accéder aux droits. Enfin, voilà. Et donc toutes ces questions-là sont parfois même prioritaires par rapport aux soins aux soins à proprement parler.
À l'échelle nationale, France Info dénombrait près de 2400 structures semblables en début d'année. Une centaine d'entre elles se trouvent en Pays de la Loire, d'après le recensement du Conseil régional.
Entre les enjeux de proximité et de prévention, beaucoup d'éléments se tissent avec le centre de santé du Breil qui vient d'ouvrir ses portes. Un projet qui était particulièrement attendu dans ce quartier faisant suite aux incendies du cabinet médical en 2018. Bérangère Camin, co-directrice de l'association Accompagnement Soins et Santé, association porteuse de ce projet, nous en dit plus.
Donc bonjour, je suis Bérangère Camin, je suis la directrice des soins et co-directrice générale de l'association Accompagnement Soins et Santé, qui est une association déjà bien ancrée sur le territoire nantais en soins à domicile.
Qu'est-ce que l'association fait et comment elle œuvre sur le territoire ?
Alors c'est une association loi 1901, donc à but non lucratif, qui a été créée en 1976 et qui comporte aujourd'hui un SIAD, donc un service de soins infirmiers à domicile avec des aides-soignants qui interviennent donc au domicile des patients, une équipe spécialisée Alzheimer qu'on appelle aussi une équipe mémoire, donc qui est composée d'ergothérapeutes, psychologues et assistantes de soins en gérontologie, et de 11 centres de santé infirmiers qui sont répartis sur l'agglomération nantaise, dont Saint-Herblain, Couëron, Indre et Orvault. Et donc aujourd'hui, on a ce projet de centre de santé pluriprofessionnel donc qui comporte notamment des médecins et d'autres professionnels qu'on n'avait pas encore jusqu'alors dans nos centres de santé.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le centre de santé du Breil ?
Donc en fait, la création du centre de santé du Breil s'est inscrite tout d'abord dans une volonté de la municipalité d'agir sur les inégalités d'accès aux soins, notamment dans les quartiers prioritaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 49 médecins dans ces quartiers pour 100 000 habitants, contre environ 93 dans le reste de l'agglomération nantaise. Donc en fait, c'est la ville de Nantes, à la base, qui s'est tournée vers la Confédération des centres de santé, plus particulièrement appelée CoSanté. Et c'est donc CoSanté qui l'a mise en relation avec notre association, donc avec Accompagnement Soins et Santé. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet de ce centre situé au cœur du Breil.
Un centre de santé qui s'inscrit sur un territoire où l'accès aux soins est particulièrement enclavé, là où il était nécessaire de définir les besoins avec les divers acteurs du quartier.
C'est un diagnostic territorial en fait qui a été fait avec les acteurs locaux, avec notamment le Conseil citoyen, pour déjà définir les besoins du territoire. Et à partir de là, donc suite à ce diagnostic, on a mis en place une équipe de plusieurs professionnels spécialisés. Donc on a une secrétaire d'accueil, pour l'instant on a un médecin généraliste, donc c'était vraiment ce qui manquait aussi au niveau du territoire. On est actuellement en recrutement pour un deuxième médecin et on aimerait bien un spécialiste en 2024. On a aussi une assistante sociale, une psychologue, on a une médiatrice en santé qui travaille avec les acteurs locaux, notamment l'association de médiation Les Forges. dans un but de lutte contre l'isolement et le renoncement aux soins des personnes les plus fragiles. C'est vraiment ce qui était apparu dans la restitution du diagnostic du quartier. On a aussi un pôle d'éducation thérapeutique et prévention avec 3 infirmières qui proposent des actions de prévention et de promotion de la santé à destination des habitants du quartier. Donc encore une fois, c'est une problématique qui était ressortie du diagnostic de territoire. On a également mis en place un centre de soins infirmiers, donc avec des infirmières. Mais c'est un centre qui est un petit peu différent des 11 autres qu'on peut proposer sur l'agglomération nantaise. C'est-à-dire qu'on voulait offrir aux habitants une offre de soins vraiment sur place. Les infirmières ne font pas d'intervention à domicile. Elles proposent toute la journée de 7h à 19h30 une permanence de soins, en fait. C'était dans un but aussi de pas interférer avec les infirmières libérales du secteur qui, pour le coup, ne sont pas en sous-effectif. Et on a également, mais qui ne font pas partie de l'association, des professionnels libéraux. Il y a 3 kinés et 2 orthophonistes. Et donc, c'est des professionnels qui ont subi de plein fouet les incendies de 2018 et justement qui ont été relogés par l'agglomération.
L'association Accompagnement Soins et Santé défend des valeurs d'accès aux soins pour tous. Mais concrètement, comment cela se manifeste en centre de santé au Breil ?
L'accès aux soins pour tous, ça veut dire aussi, pour nous, le tiers payant généralisé. Ça veut dire que les médecins, les infirmières sont conventionnés avec les mutuelles, la sécurité sociale, dans le but que le patient n'ait rien à débourser, qu'il soit pris en charge à 100% ou non. On propose des consultations d'assistantes sociales gratuites, des consultations de psychologues prises en charge, pareil, par la sécurité sociale, donc avec aucune avance de frais. Donc ça nous permet de reporter les valeurs de notre association directement dans ce centre de santé.
Des prestations qui sont aussi favorisées par la structuration en tant que centre de santé géré par une association. Ce n'est pas tout à fait pareil que pour une maison de santé.
Alors, la différence entre un centre de santé et une maison de santé, c'est que dans un centre de santé, les professionnels sont salariés. En fait, l'avantage d'un centre de santé, c'est qu'en fait, il est donc géré par une association pour nous, et que en fait, les délais de mise en place de ce genre de structure est beaucoup plus rapide qu'une maison de santé où les professionnels vont être salariés. Il y a un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est qu'on a possibilité d'avoir des subventions, notamment de la ville, de l'ARS et de plusieurs appels à projets qui nous permettent de justement développer plus facilement ce genre de structure.
La lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé passe aussi par un volet sensibilisation. Le Centre de santé du Breil propose des actions de prévention, d'éducation thérapeutique sur des sujets relevés lors du diagnostic, comme la lutte contre les addictions, la santé de la femme, les conduites à risque chez les jeunes ou encore des ateliers nutrition. Bérangère Camin l'évoquait plus tôt, le centre cherche à recruter un autre médecin. Il reste bien des lignes à bouger afin de s'affranchir de l'imaginaire de la non-attractivité d'un quartier prioritaire.
Fly away, fly away, airport. and traces of the love we had in places. Hotel in my mind, how I wish I'd been much stronger. For the wheels are turning faster as I hear the winds are blowing. I know that she is leaving on a jet plane without the runaway. It's getting me so cold.
Nous sommes toujours sur Jet FM dans Mégaphone et nous venons d'entendre Airport du groupe The Models. Un choix musical en lien avec la seconde partie de l'émission consacrée à l'aéroport de Nantes Atlantique. Une explosion du trafic aérien à l'horizon 2040, ce sont toujours les projections officielles. On passerait de 6 à 10 millions d'usagers annuels, soit un vol tous les 2 à 3 minutes. Et cela n'est pas sans conséquences, puisque cela représente près de 100 000 personnes potentiellement affectées par le bruit et les particules fines. Mais le 29 septembre dernier, le gouvernement a annulé l'appel d'offres pour le renouvellement d'un contrat de concession et la modernisation de l'aéroport. Un contrat qui a été évalué à près de 500 millions d'euros. Les raisons ? Une insuffisance de concurrence et risques juridiques. L'aéroport était en fait le seul concurrent en lice et l'appel d'offres proposait notamment une extension de la piste d'atterrissage dont on peut interroger les bénéfices. C'est un report temporaire puisque l'État promet un nouvel appel d'offres pour l'aéroport d'ici la fin de l'année. Qu'en disent les riverains de l'aéroport ? Paolo Ferreira, président de l'association COSETA, le collectif des citoyens exposés au trafic aérien, nous en dit un peu plus.
Comment est-ce que vous réagissez à cette nouvelle du report de l'appel d'offres pour l'aéroport de Nantes Atlantique ?
En fait, ce n'est absolument pas rigoureux et sérieux d'annoncer, de dire on arrête un appel d'offres pour en relancer un autre un mois après. Donc en fait, on a juste relancé le même projet, sauf qu'on va s'arranger pour qu'on fasse semblant d'écouter les élus locaux. Et tout ça en annonçant, et ça je vous le parie, en annonçant qu'on va abandonner en fait l'allongement de la piste de 400 mètres, ce qui permettra pour le coup de remettre l'appel d'offres en fait en cours et de pouvoir renégocier des choses. Mais on va garder l'essence même du projet, qui est de maintenir l'aéroport là où il est, et avoir un objectif de croissance complètement fou.
Ce que vous réclamez au niveau du COSETA, le collectif des citoyens exposés au trafic aérien, c'est notamment le lancement d'une étude d'impact en santé avant l'appel d'offres.
Oui, en fait, on fait tout à l'envers hein, sur le marché précédent, et je crains qu'on reproduise les mêmes erreurs. sachant que le marché était basé de toute façon sur un objectif de chiffre d'affaires qui était lié à une croissance du trafic, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc du coup, ça a engagé l'État et ça a engagé du coup aussi le futur concessionnaire, puisque c'est lui qui prenait à charge les investissements. Et donc le bon sens voudrait qu'on réalise, qu'on définisse un projet correctement et qu'on évalue les études d'impact avant de lancer un marché de mise en œuvre.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler très brièvement les impacts de cette exposition au bruit et au trafic aérien pour les habitants ?
Si on ne parle que des impacts sonores, on ne parle même pas encore de la qualité de l'air, hein, qui n'est pas du tout prise en compte dans la réglementation aérienne, au passage, donc je parle des particules ultra fines notamment, mais pour les impacts sonores, typiquement des problématiques cardiaques, de tension, d'hypertension.
Et qui se traduisent très concrètement par une baisse de l'espérance de vie en bonne santé.
Absolument, oui, pardon, j'aurais dû commencer par cela. Tout simplement aussi parce qu'on manque de sommeil.
Paolo Ferreira, quid du couvre-feu en quelques mots? Théoriquement, il n'y a pas de vol entre minuit et 6h du matin. Au niveau du COSETA, vous répertoriez toutes les infractions à ce couvre-feu. Ça donne quoi?
Oui. On parle en fait d'amendes qui n'ont jamais été payées, en tout cas pour la plupart. Et par ailleurs, donc minuit, 6h du matin, on crée un effet complètement délétère avec ce couvre-feu. C'est que avant minuit, vous avez un point aérien au-dessus de votre tête. Et juste après 6h du matin, vous avez un autre point aérien au-dessus de votre tête. Donc c'est absolument terrible pour nous. Et donc c'est pour ça qu'on avait demandé d'ailleurs que la plage soit étendue à 23h, 7h du matin pendant la semaine. Ne serait-ce parce que l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande une plage de 8 heures de sommeil. Non seulement le couvre-feu n'est pas suivi, mais en plus, pour le coup, il y a des effets de bord qui sont vraiment néfastes pour la santé. Et en plus, on a banalisé le samedi et le dimanche. Avant, ce n'était pas le cas. Voilà.
Qu'en est-il justement de la concertation et de la mobilisation locale du côté des collectivités et des élus? Est-ce que vous en êtes satisfait?
Non, on n'est pas rassuré, parce qu'on met en avant effectivement la santé publique, mais il n'y a aucune réelle mesure là-dessus. Si on voulait vraiment protéger les gens, il faudrait soit cantonner le trafic prévu à quelque chose de raisonnable.
De votre côté, vous évaluez justement ce que serait un trafic aérien raisonnable du point de vue de la santé publique pour les habitants?
Oui, j'aimerais juste préciser deux choses. C'est soit, de toute façon, on replafonne effectivement dans la mesure du possible les vols. Le nombre de vols, c'est moins de 30 000 mouvements en fait par an et non pas 56 000 mouvements comme on entend parler. 30 000, pourquoi? Parce que initialement, lorsque la DGAC avait réalisé une étude sur cet aéroport, elle avait dit qu'au-delà de 3 millions de passagers par an, de toute façon, on aurait de telles nuisances qu'il faudrait l'envisager ailleurs. Donc finalement, ce que porte le COSETA, c'est simplement deux scénarios possibles. On maintient l'aéroport, mais on réduit drastiquement le trafic aérien, mais du coup, on abandonne complètement l'aéroport du Grand Ouest et l'ambition du développement territorial, qui pourrait se justifier, bien entendu. Ou alors, deuxième scénario, et c'était quand même le scénario qui avait été travaillé à l'époque, si on veut faire quelque chose de plus important, il faudra le faire ailleurs, là on puisse mieux maîtriser effectivement les nuisances et mieux accompagner effectivement ceux qui seraient soumis à ces nuisances.
Le plafonnement, pour l'instant, je vous cite une réaction de Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire, réduire le trafic, c'est tuer l'aéroport.
Évidemment, je la suis. On ne peut pas à la fois investir lourdement sur un aéroport et en même temps brider le trafic. Ça n'a aucun sens. Ça, je la rejoins. Mais ce qu'elle oublie juste, c'est qu'elle sait sciemment qu'en développant en fait le trafic, du coup, il y a plus de 100 000 personnes qui seront concernées par les nuisances aériennes. Et quand je pense, quand je parle de concernées, encore une fois, c'est l'impact sur la santé. Et ça, on ne mesure pas en fait l'impact économique que ça représente. Je vous passe le côté éthique, hein, bien entendu, puisque apparemment personne ne le prend en compte. Donc Madame Morancet a tout à fait raison en disant qu'effectivement on tuerait cet aéroport. En tout cas, on tuerait l'ambition qu'on avait pour cet aéroport pour le Grand Ouest. C'est surtout ça qu'il faut entendre. Donc du coup, il faut être un petit peu cohérent. Soit on constate que cet aéroport, il ne faut pas investir dessus, mais il faut le faire ailleurs pour l'ambition qu'on a, soit on revoit complètement l'ambition.
L'aéroport actuel pourrait être dimensionné, en tout cas vous parliez pour 30 000, 40 000 vols par an, et
oui,
rester sur entre 3 et 5 millions de passagers.
Inférieur à 5 millions, encore une fois, 5 millions de passagers, on l'a déjà connu et c'était très difficile
c'était
à vivre.
C'était le pic de 2019.
Voilà, même 2019, on était même à 6,9 ou 7 millions de passagers, hein, ce qui était déjà excessif. Il y a eu un rapport en 2013 qui avait reconfirmé en fait ce point-là. Et donc, pour le coup, le bon chiffre, entre guillemets, mais encore une fois, subir les nuisances aériennes, ça n'a rien de bon. Mais au-delà de 30 000 mouvements, en fait, point de salut, quoi. Mais 30 000 mouvements, vous savez, finalement, on l'atteint très, très, très vite, hein. Enfin, encore une fois, c'est une question de stratégie de territoire. Mais du coup, il faut aussi réfléchir à rationaliser aussi les autres aéroports. Il y a 11 aéroports dans le Grand Ouest, c'est peut-être la région, les territoires où il y a le plus d'aéroports. En fait. Un exemple, le trafic aérien sur Quimper, par exemple, c'est essentiellement du Quimper Orly, pour pouvoir après prendre des correspondances. C'est une aberration totale, vous voyez. Donc c'est une aberration, certains aéroports tournent complètement à vide ou à perte, ce qui n'a absolument aucun sens. Il faut peut-être réfléchir là-dessus, et en même temps, réfléchir à ce qu'on pourrait faire finalement du site actuel de l'aéroport de Nantes Atlantique.
Je vous arrête un instant, hein, Paolo Ferreira, pour être très clair. Du côté du COSETA, c'est l'impact sur la santé et le bien-être des habitants concernés, hein, 100 000 potentiellement par la nuisance de l'aéroport. Par contre, l'argument écologique sur la nécessité de réduire, diminuer, limiter le trafic aérien dans un contexte de changement climatique qui est quand même très pressant, ça ne fait pas partie de ce que vous défendez. Vous êtes quand même sur cette idée de croissance, ok, on acte la nécessité d'une croissance du trafic aérien.
Bah écoutez, c'est pas vraiment ce que j'ai dit, j'ai juste dit qu'à un moment donné, il y a un besoin qui est celui-ci. Donc la question, c'est de se dire comment on peut y répondre. Alors déjà, nous, notre légitimité, c'est la problématique de la santé publique, la problématique donc des personnes impactées par les nuisances aériennes. La question, en fait, de la santé publique est liée aussi à l'environnement dans lequel on vit. Donc, mécaniquement, l'environnement et l'écologie nous concernent directement, bien entendu. Je dirais même qu'il faut appeler de la cohérence. Dans le courrier des 24 maires, il y a une phrase choc, valise, qui consiste à dire « L'aéroport de Nantes Atlantique ne sera pas un nouvel Notre-Dame-des-Landes ». La phrase qui veut absolument rien dire. Par contre, nous, on appelle absolument à de la cohérence. Notre-Dame-des-Landes, la décision de ne pas le faire là-bas, c'était aussi pour des questions écologiques. Là, on a un aéroport qui, d'une part, est situé sur une zone hyper urbanisée et qui va toucher plus de 100 000 personnes au point de vue de la santé publique. Et d'un autre côté, il est situé sur une zone Ramsar, Natura 2000, donc qui est le lac de Grandlieu, qui est quand même la première réserve ornithologique de France en nombre d'espèces. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Pourquoi ce qui était valable à Notre-Dame-des-Landes n'est pas applicable du point de vue écologique à cet aéroport de Nantes-Atlantique? Voilà, ça c'est le premier point. Deuxièmement, du point de vue environnemental, je suis entièrement d'accord. L'État, le gouvernement a annoncé en fait un plan lié aux défis climatiques. Est-ce que vous avez vu une ligne sur la question aérienne? Non, vous n'avez rien vu. Donc ça veut dire que pour l'instant, c'est absolument pas programmé. C'est absolument pas d'actualité. Donc du coup, il faut être rationnel. Donc pour le coup, quelle est l'autre façon de faire finalement? C'est de se dire, peut-être qu'il y a beaucoup trop d'aéroports en France, et en tout cas sur notre territoire, peut-être qu'en rationalisant cet aéroport, on contribue aussi à cet objectif finalement de réduire effectivement le nombre de vols. Donc là, non seulement on contribue à la problématique de santé publique en réfléchissant ainsi de manière très large, et en plus on contribue aux défis climatiques que je partage complètement. Mais pour ça, il faut avoir une vision, une coopération, une vision la plus large possible. Pour l'instant, on ne l'a pas. C'est pour ça que je ne suis pas du tout satisfait du positionnement en fait national et encore moins du positionnement local, parce qu'on n'est pas raisonnable.
Paolo Ferreira, je rappelle que vous êtes président du collectif des citoyens exposés au trafic aérien. Qu'est-ce qui reste de votre côté comme espoir, mobilisation là, à court et moyen terme?
En fait, il n'y a pas d'espoir, il faut agir. Bon, alors nous, pour le coup, ce qu'on fait, effectivement, c'est des mobilisations, des manifestations, mais pas des manifestations qui visent à détruire, mais des manifestations constructives. Deuxièmement aussi, je sais très bien que donc on assiste à énormément d'instances. Ça demande beaucoup d'investissements, bien entendu, de notre part. Et le point le plus important et qu'on est en train d'engager, bien entendu, ce sont les recours juridiques. Parce que pour le coup, il y a matière à faire.
Des recours qui, précisément, portent sur quel point?
Faites la santé publique. Et on ne restera pas au niveau français, on restera au niveau européen. Parce que de toute façon, on sait qu'il va falloir sortir de notre législation française.
Et puis là, c'est quelque part le report de cet appel d'offres, c'est du temps pour la mobilisation pour le COSETA. À minima, un report de 2 ans des travaux initialement prévus, oui, de modernisation de l'aéroport de Nantes-Atlantique.
Oui, alors là-dessus aussi, c'est un sketch. Tout le monde aura relevé en fait que 2026, c'est une échéance municipale et 2027, une échéance présidentielle. Finalement, on gagne du temps pour que la patate chaude soit pour le prochain gouvernement.
Comment est-ce que vous expliquez que Johanna Roland ne s'engage pas en faveur d'une restriction du trafic aérien et puis quelle serait sa marge de manœuvre, son pouvoir en la question?
Tout simplement parce qu'elle ne peut pas s'exposer sur ce sujet. Elle sait que c'est un sujet qui est politiquement difficile à tenir. Encore une fois, la référence à Nantes-Atlantique ne sera pas à Notre-Dame-des-Landes, ça démontre bien quelque chose, c'est que dans l'esprit de ces politiques-là, Notre-Dame-des-Landes est un véritable trauma. Ils savent très bien que c'est un suicide politique de réouvrir le dossier. c'est trop difficile à gérer. On est plutôt sur des engagements ou plutôt sur des calculs qui sont très individuels, des calculs politiques qui sont très individuels. Clément Beaune, lui, il va viser 2027 la mairie de Paris, donc il a intérêt à avoir une posture écologique, environnementale très intéressante. Johanna Roland va jouer aussi sur ce tableau-là pour les municipales, et Christelle Morançais va être intéressée peut-être pour un nouveau gouvernement, ça risque sûrement de changer, et du coup je pense qu'elle se projette aussi là-dessus. Donc tout voilà, ce sont que des calculs politiques d'intérêt personnel. Donc, dans cette histoire, il va y avoir 100 000 et 23 cocus dans cette affaire. Tout ça donc contre l'intérêt général, c'est ça la véritable histoire, c'est ça le scandale de cet aéroport.
Merci Paolo Ferreira. Je rappelle que vous êtes président de l'association COSETA, le collectif des citoyens exposés au trafic aérien. Et puis vous avez un site internet très documenté où on peut retrouver toutes les informations sur votre mobilisation.
Merci infiniment en tout cas de m'avoir proposé d'intervenir.
Depuis cette interview, plusieurs annonces ont été faites par le ministre des Transports Clément Beaune. L'abandon de l'allongement de la piste, l'augmentation des aides aux travaux d'insonorisation ainsi que des contraintes plus restrictives afin de faire respecter le couvre-feu existant. Des annonces qui sont saluées mais jugées insuffisantes puisque l'élargissement de la durée du couvre-feu ou encore la limitation de l'activité aéroportuaire n'ont pas été prises en compte. Avant de se quitter, un petit point flash d'actualité d'événements à venir. Ce samedi, à partir de 18h, aura lieu une soirée témoignage de personnes rapatriées de Gaza et de personnes palestiniennes vivant en France depuis plusieurs mois, voire années. Cette soirée se déroulera au CMEA et sera suivie d'un repas palestinien dont les bénéfices seront reversés à des organisations en soutien à la Palestine. Le prochain mégaphone sera consacré à ce sujet. Et mardi prochain, le 28 novembre, aura lieu une conférence organisée par Bretagne Vivante intitulée « La forêt et le changement climatique » avec Nicolas Janot de l'Office national des forêts, accessible gratuitement à la médiathèque Charles Gauthier Hermeland à Saint-Herblain sur inscription. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Bretagne Vivante. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur jetfm.fr, rubrique Mégaphone. À suivre à l'antenne, un reportage pensée locale juste avant de rejoindre Calomé avec Chemin d'Afrique. Très belle soirée sur JetFM.
Mégaphone!
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Économie
sociale et solidaire en pays nantais et au-delà.
Mégaphone,
le magazine de la rédaction de Jet.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Bon, c'est le deuxième tramway qui passe, et cette fois-ci, je ne peux pas le louper. C'est la première fois que je prends la ligne C depuis son inauguration au mois de juillet. Direction, le quartier de Belbeil à Angers. Les portes se ferment, je valide mon ticket, et pour le moment, il reste de la place pour s'asseoir. Allez, c'est parti.
Prochain arrêt, Belbeil, campus.
De l'autre côté de la Maine, Gilles Toublan, le président de l'association des habitants de Belbeil, nous attend pour parler de l'arrivée du tram dans le quartier. Un tram qu'il a déjà l'habitude de prendre.
Là, vous allez me toucher sur les sentiments. Le dernier parcours que j'ai fait en tram, c'est la ligne Belbeil, effectivement, mon plaisir. Là, c'est génial, le château, la cathédrale.
Il aura fallu attendre 6 ans de travaux pour que le tram arpente les rails et réponde aux besoins du quartier de Belbeil.
Le plus, il est gagné surtout au niveau des étudiants. Parce que, disons, le milieu étudiant était complètement dépourvu d'un raccordement sur Angers, surtout pour les cours, et puis l'après-cours, le soir et autres. Donc là, je crois que c'est un atout très important. Bon, effectivement, il y a des retombées également sur Belbeil, parce que les gens de Belbeil se déplacent, soit centre-ville, soit ailleurs, soit à la gare, ou ainsi de suite. Donc c'est quand même très positif.
Les nouvelles lignes du tram sont déjà ancrées dans le quotidien des habitants du quartier, et facilite les déplacements.
Avant, j'avais un vélo de la ville d'Angers. Pour moi, le tram, c'est plus pratique.
Non, c'est l'idéal pour aller se promener en ville, pas besoin de la voiture.
Le tram, c'est plus agréable, plus confortable et un peu plus rapide.
Quels effets va avoir le tram sur le long terme ? Le quartier de Belle Baye connaît déjà une disparition de ses commerces, et si la ligne de tramway semble faciliter les déplacements et favoriser les mobilités douces, la crainte de la disparition des commerces s'endurcit.
Moi, je fais partie d'une vieille génération où, disons, on était très attaché à son commerce, à son boulanger. Aujourd'hui, malheureusement, les commerces, il n'y en a plus beaucoup. Hein. L'avenue Patton devient désertique au niveau des commerces.
Pour Xavier, de la pizzeria du centre commercial Bossier, c'est aux commerçants de faire le nécessaire pour leur activité.
Je pense que quand même, il y a moyen de travailler sur le centre. Il y a quand même du monde. Après, charge à nous de faire venir les gens, en fait. Tout simplement, charge à nous, commerçants, de faire venir les gens. Donc on a un beau centre commercial. On a un bel endroit maintenant, comparé à ce qu'on avait avant. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de travailler dans ces conditions-là, quoi. Après, maintenant, encore une fois, à nous de faire le boulot pour que les gens viennent et restent.
Et pour rester et faire vivre le quartier de Belle Baye, le mieux est d'y loger. Si le quartier compte plus de 10 000 habitants aujourd'hui, l'arrivée du tram y change petit à petit la sociologie. Gilles Toublan.
C'est une réalité. Aujourd'hui, dès l'instant qu'un quartier est attractif, pour différentes raisons, les gens viennent. Et il est inévitable que, compte tenu des coûts de loyer et des coûts d'acquisition, il y a une sélection qui se fait par l'eau. Belle Baye, que j'ai connue au niveau sociologie, bon, il y avait quand même une certaine, je dirais, pauvreté de la population compte tenu de la réhabilitation du nouveau Belle Baye, de Belle Baye. Et donc là, il y a un rajeunissement du bâti avec une nouvelle population. À l'époque, il y a eu jusqu'à 36% de logements sociaux et qui seraient descendus à 26%, sachant que le seuil qui est dans les villes, c'est souvent, faudrait souvent attendre minimum 20%.
Belle Baye est en pleine évolution. La carte de l'INSEE montre qu'à certains endroits du quartier, plus de 45% des ménages sont pauvres. La proximité du campus universitaire favorise la mixité sociale. Toujours selon l'INSEE, en 2020, 20% des entrants dans le quartier étaient des jeunes de 19 à 26 ans ou des couples sans enfants. Mais la flambée du prix du logement, la volonté de la première ministre Elisabeth Borne de ne plus attribuer de logements sociaux dans les quartiers prioritaires aux demandeurs les plus précaires, laisse en suspens les problématiques de logement des habitants les plus défavorisés du quartier.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Martin Collat pour Radio Campus Angers.